Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Figure de l'Histoire. Nous avons laissé Alexandra Davinel quittant Pékin par le train. Elle est accompagnée du grand lama du Coucou Nord. On arrive au terminus. Alors, je vous donne les noms, mais on n'est pas très sûr des endroits parce que quelquefois les villes ont changé de nom, puis quelquefois Alexandra les écrit pas très bien. Alors, à Honanfou, elle visite, comme toujours, bien sûr, deux sites bouddhiques célèbres. Cette région, c'est vraiment la Chine profonde. La population ignore les règles les plus élémentaires de l'hygiène. Ça, elle en parle souvent. C'est un endroit peu sûr et qui plus est, la peste pulmonaire règne. Il y a déjà plus de 5000 morts. Alexandra, elle croit ressentir les premiers symptômes, dont finalement, heureusement, ça n'est que la grippe. Elle veut poursuivre son périple. Il n'y a pas de train. Alors, on compose une caravane avec 6 chariots, 15 mules. Les 7 hommes du lama sont armés. Alexandra emporte son lit et son tub. Elle n'a pas eu le temps d'acheter de la nourriture. Dans la petite ville de Tungchou, sur les cartes françaises, c'est Tongcheou. Il existe une mission française qui invite Alexandra. Alors, elle accepte. Le pasteur est suédois. Sa femme est danoise. C'est le premier contact de la voyageuse avec des missionnaires de la Chine intérieure. Il y en a beaucoup. Davantage de protestants que de catholiques. Elle est très aimablement reçue, mais elle a la dent dure quand elle dit d'eux que ce sont des illuminés. Du 9 avril au 8 mai 1918, Alexandra reste dans la ville de Xian. 6 dynasties y ont régné. Le 25 mai, la caravane arrive à Lanzhou ou Lanzhou. C'est une grande ville située au bord du fleuve jaune, qu'on appelle le Huanghou. Autour de hautes montagnes arides, Alexandra se présente au gouverneur qui lui établit des lettres de recommandation. On explore. Le voyage est très rude, les étapes dans les auberges qui ressemblent vraiment à des étables. Le 25 juin, arrivée à Sining, ville des caravanes, un carrefour des civilisations musulmanes et tibétaines. Alexandra rencontre les missionnaires. Il y a eu d'abord des jésuites, puis des lazaristes, les franciscains. Ils étaient tous des clandestins. La pratique de la religion chrétienne reste. Elle est restée considérée comme un délit jusqu'en 1844. Tous les voyageurs occidentaux sonnent aux portes des missions. Ils sont contents de retrouver pour un moment des personnes issues de leur civilisation. Les missionnaires ont l'expérience du terrain et des populations locales. Alexandra, elle sera toujours reconnaissante de l'aide que les missionnaires ne refusent jamais de lui accorder. Bon, sauf une fois. Ceci dit, elle pense que le christianisme va tellement à l'encontre des conceptions extrême-orientales qu'il ne peut s'implanter durablement. Et l'incompréhension entre Alexandra et les missionnaires est d'ailleurs réciproque. Début juillet 1918, Alexandra arrive en vue du grand monastère de Kumbum. Il est situé à 2500 km à l'ouest de Pékin. Il accueille toujours les visiteurs de passage et on peut même y louer un logis pour quelque temps. Alors Alexandra arrive là absolument comme chez elle. On lui octroie plusieurs pièces. Alors elle est heureuse là. Les montagnes lui plaisent, la vie est bon marché, le silence lui permet de méditer et elle rend visite à des lamas de haut rang. Elle enfile alors la tenue offerte par le Tashi Lama, c'est-à-dire une robe grenat, une chemisette de soie jaune, une veste dorée, un châle jaune, un bonnet pointu de satin jaune, doublé de peau de mouton. Et dans cette tenue, alors, elle assiste aux festivités locales, qui sont toujours très pittoresques. Malheureusement, la guerre n'est pas loin. Quand je dis n'est pas loin, c'est à moins de 200 kilomètres. C'est dû à une querelle entre les lamas qui a dégénéré. Les militaires chinois donc interviennent, le monastère a été pillé, si bien qu'Alexandra doit dormir avec son pistolet à son chevet. On barricade le monastère parce que c'est quand même un lieu extrêmement isolé. Tellement isolé qu'il faut 3 mois pour que les lettres et l'argent que lui envoie son mari, Philippe, lui arrivent. Elle est obligée alors d'emprunter de l'argent à la mission catholique. Il faut signaler quand même qu'elle arrivera toujours à rendre l'argent emprunté. L'hiver arrive, la vie devient plus rude, alors elle achète 2 poêles. Comment est-ce qu'elle passe sa journée? Eh bien, figurez-vous qu'elle se lève à 5 heures du matin au son de la musique religieuse. Puis se succèdent les études, les offices, les traductions tibétaines, la méditation, les promenades. Deux lettres lui apprennent, avec retard, la fin de la guerre, c'est-à-dire le 11 novembre 1918. En janvier 1919, elle pense que ce serait rendre hommage à son mari en signant ses écrits de ses deux noms juxtaposés. Jusqu'à présent, elle signait que David. Le printemps arrive, alors Alexandra, bah comme d'habitude, elle sent des fourmis dans les jambes, si bien qu'elle achète un mulet, et puis elle songe alors à de nouvelles excursions. Elle fait le tour du lac le plus célèbre du nord du Tibet, le Kuku Nord. C'est un circuit de plusieurs centaines de kilomètres. Elle va en parcourir toute sa vie. Sur les îles de ce lac vivent des ermites. Alors actuellement, ce lac, c'est une réserve ornithologique. Retour au monastère. Elle y reste encore un an. Et pour mener à bien la suite de son voyage, évidemment, elle a besoin d'argent. Alors Philippe lui envoie 18 000 francs de la succession de sa mère. Nous sommes fin janvier 1921. Elle s'apprête à partir. Alors elle voyagera non pas comme une étrangère, mais comme une lamani asiatique, accompagnée de quelques serviteurs. Et bien sûr, elle va éviter les grands axes. Le 5 février 1921, elle quitte le monastère de Kumbun, direction Lhasa. C'est son obsession. Hein ? Elle va mettre 3 ans pour y parvenir, 3 ans d'aventure. Alors, elle est quand même maline, hein, parce qu'elle part dans la direction opposée à sa destination. C'est une ruse hein, pour ne pas qu'on l'arrête. Elle se souvient de son expérience précédente. Je ne sais pas si vous vous rappelez la dernière fois quand je vous en ai parlé. Elle était partie sans autorisation, puis elle s'était fait rattraper. Et retour au pays. Elle va aborder le Tibet par l'Est. Alors, elle va parcourir plus de 2000 kilomètres en charrette, à dos de mule et même à pied. Elle a bien étudié les circuits et les risques. La caravane comprend 5 mules pour 6 personnes. Les hommes se relaient à côté des mules à pied. Tout le monde est armé. Première aventure, rencontre avec un troupeau d'une centaine de chameaux menés par des Mongols. Alors le chemin est encaissé. Qui va passer en premier? Le ton monte. Personne ne veut perdre la face, parce que c'est fondamental hein, chez les Chinois de perdre la face. On ne perd pas la face. Alors, Alexandra dit à ses hommes de sortir leurs armes. Et quand ils voient ça, les Mongols prennent peur. Les chameaux font demi-tour. Alors, c'est pas anodin comme histoire, parce que la dame Lama n'a pas cédé. Si bien que les serviteurs la respecteront et lui obéiront. On arrive à Lancho, 200 km, 1 mois et demi. Nous allons faire une première pause musicale.
Yang so kun cha sumule cha
nous sommes toujours sur Radio Grand Ciel et je vous raconte la vie d'Alexandra Davinel. Ils viennent d'arriver donc à Lancho, ça leur a pris un mois et demi pour faire 200 km. Alors à ce régime, il va bien falloir du temps bien sûr pour atteindre Lhasa. Hein. Alexandra est Afur. Afur, c'est celui qui va devenir son fils adoptif, qu'on dira quelquefois sous le nom de Yongden. Alors les deux tombent malades, ils se rétablissent, on repart. La montagne entre Lancho et Ojo, c'est pas sûr. Alors Alexandra ordonne la tenue de guerre, c'est-à-dire des cartouches dans les fusils, des vêtements qui rappellent ceux des soldats. Elle partira devant, dit-elle, donc à pied, exprès mal habillée. Comme ça, on croira que c'est une pauvre vieille qui chemine et on ne tentera pas de l'aborder. En cas d'alerte, elle fera signe. Alors, elle dépose comme le petit poucet, hein, des tas d'indices pour ceux qui la suivent. Et elle dit qu'en cas d'alerte, donc, elle fera signe et qu'à ce moment-là, les hommes riposteront. On arrive finalement à Ojo sans problème. Ojo, c'est la Mecque de l'Empire chinois. Mais les musulmans ont été exclus de la ville et relégués dans les faubourgs. En 1911, dans cette ville, il y avait 13 mosquées. Alexandra tombe malade et une mule aussi. Alexandra, comme d'habitude, se remet rapidement, mais la mule, elle manque de mourir. Ben, finalement, elle ne meurt pas. Direction Saroma. En dehors des villes, il n'y a pas d'auberge. Alors, il faut loger chez l'habitant. Et ça n'est pas toujours facile, parce que certains habitants sont très méfiants. Le 30 mars, la troupe arrive à Labrang. C'est magnifique, c'est un des monastères les plus importants. On y trouve une riche bibliothèque, des collèges universitaires qui sont spécialisés en philosophie, en astrologie et même en médecine. Elle fait des visites, en particulier à un monastère de Naxpa, ce sont les héritiers des Bompo. Alors les Bompo, c'est une autre religion des Tibétains. Elle y recueille des informations sur cette branche religieuse qui est mal connue en Occident. La caravane repart le 4 avril. Alors, il n'y a pas d'événement notable. Alexandra a la peau hâlée, endurcie par le vent. Donc, elle passe sans problème pour une authentique Lamanie asiatique. Et les villageois se rendent compte qu'elle n'est pas de la région, mais l'Asie est tellement immense et les types humains tellement multiples et les langues aussi, que ça passe. La caravane progresse à la lisière de la province chinoise de Sichuan. Les rencontres avec les villageois ne sont pas toujours cordiales. Alexandra ordonne alors de sortir les armes, et ça calme tout le monde. Le parcours est souvent difficile, des passages trop pentus, des chemins mauvais, il faut souvent mettre pied à terre, les mules sont fatiguées et éprouvent des difficultés à franchir les obstacles. Mais quand même on arrive, la troupe arrive à une mission dirigée par le père Charrier. Tout le monde peut se loger autant de temps qu'ils veulent dans un bâtiment qui va devenir l'école des filles. Tous les après-midi, le père Charrier vient discuter avec Alexandra. On repart. Les rivières torrentielles sont gonflées par les pluies, les sentiers sont effondrés. L'un des domestiques tombe à l'eau. Deux mules glissent du chemin, ça ne fait rien, on continue quand même. Quand on traverse une rivière, c'est à gué, avec de l'eau jusqu'aux hanches. Maintenant, la troupe circule dans les marches tibétaines où l'on trouve plusieurs missions catholiques. Alors Alexandra arrive à Kanzé le 17 août. Elle est reçue par la famille du gouverneur. Cependant, le magistrat lui refuse l'autorisation de se rendre à Batang. Il donne comme prétexte l'insécurité. Et on lui dit, il faut poursuivre, mais pas dans cette direction-là, il faut poursuivre vers Dergé. Or, cette ville est placée sous l'autorité du gouverneur de Lhasa. Donc en territoire interdit. C'est la deuxième fois que les autorités contrecarrent ces projets. La frontière avec le Tibet intérieur se trouve près du hameau de Zako. Eh bien, Alexandra s'y présente. La caravane a déjà été signalée. Le responsable de l'ordre public laisse passer le groupe, mais prévient les autorités de Dergé. La caravane s'est augmentée de plusieurs yaks et de deux marchands tibétains. Le 15 septembre 1921, on arrive à Jekundo, au nord-ouest, à 3780 mètres d'altitude. Cette bourgade est à la croisée de deux routes. Celle de Sining, jusqu'à Lhasa, et celle de Tatsienku, jusqu'à Lhasa. Alors, elle en prend l'une des deux. Elle est dans la bonne direction. mais elle a encore 800 kilomètres à faire. Cette fois, ils sont quatre à partir. Il y a Alexandra, Arthur Yongden, qu'elle considère comme son fils et qu'elle prénomme Albert, et puis deux domestiques. Elle part devant avec seulement un domestique et les deux autres la rejoindront à un endroit qu'ils ont fixé. Alexandra laisse des marques pour qu'ils puissent évidemment retrouver leur chemin. Il faut 20 jours au deuxième groupe pour rejoindre Alexandra. Voilà donc les quatre qui sont réunis. Il faut faire semblant de ne pas se connaître pour ne pas attirer l'attention. Enfin, on arrive dans le Tibet interdit après avoir passé un pont qui est une véritable balançoire. On est dans le Tibet, mais on n'est pas encore à Lhasa. Hein. Trois jours plus tard, ils sont arrêtés. Et bien sûr, ils doivent retourner d'où ils viennent. Février 1922, Alexandra jure d'atteindre la capitale interdite ou de mourir. Elle trouvera un autre moyen. Elle choisira une autre route. Elle mettra le temps qu'il faudra, mais, dit-elle, elle ne renoncera jamais. Au milieu de l'été, Alexandra, Afur, Albert, les domestiques et les animaux quittent la ville. La nouvelle donc destination, c'est la région des Grands Lacs tibétains. Alexandra a déjà 54 ans. Hein. Si elle part dans cette direction, c'est pour faire croire qu'elle a abandonné l'idée d'aller à Lhasa. On arrive à Kancho, installation dans un petit temple taoïste. Elle y attend les fonds nécessaires que Philippe doit lui envoyer. Alors elle lui écrit qu'il a envoyé l'argent. Mais l'argent, pour l'instant, on ne l'a pas vu. En janvier, Alexandra n'a toujours rien. Elle part quand même. Le 10 avril 1923, elle est à Lhasa, la capitale du Kansu. Son prochain objectif, c'est le désert de Gobi. Elle quitte Lhasa le 1er mai 1923. Cette fois, Alexandra renonce au domestique. Elle ne part qu'avec Afur Albert, un cheval et une grande mule. Le voyage est très éprouvant. C'est Afur qui souffre le plus car il parcourt 30 à 40 km par jour à pied en tenant la bride de la mule. Hein. Il doit s'occuper des animaux, des bagages, de la cuisine et finalement, eh bien sûr, il tombe malade. Alors Alexandra décide de se reposer et de louer une mule supplémentaire. Le 29 mai, ils sont accueillis à une mission catholique. Le prêtre, qui est chinois, convie Alexandra à partager un repos. Et surtout, un repas plantureux. Elle est contente parce que dans le voyage, évidemment, la nourriture a été absolument succincte. Afur va loger chez lui et Alexandra chez deux dames de la mission protestante. Départ vers Miencho. Fatiguée et malade, Alexandra se rend à la mission catholique française chez les religieuses franciscaines. Elle y est bien accueillie. Elle consulte un médecin français qui lui conseille de s'installer dans la maison du directeur de l'Institut Pasteur en congé. C'est un cadre idéal pour sa convalescence. Elle en profite pour rendre visite au consul de France et à l'évêque Monseigneur Rouchous. Le 14 juillet 1923, elle embarque sur la rivière Min dans l'intention de gagner la province du Yunnan, contiguë à la Birmanie et au Tibet. Nous allons faire une deuxième pause musicale.
Yeah!
Nous sommes sur Radio Grand Ciel, je vous raconte la vie d'Alexandra Davinel, qui donc va se diriger vers la frontière avec la Birmanie et le Tibet. Le voyage n'est pas de tout repos, parce que la sécurité n'est pas assurée. Les populations locales sont souvent belliqueuses. Elle arrive à Ningwangfu le 20 août 1923. Elle loge à l'évêché. Monseigneur Bourguin déplore l'instabilité politique, les pillages, les massacres, la famine. Elle a engagé un guide pour circuler dans ces contrées. Le voyage se poursuit. Ils sont maintenant à 40 km de la Birmanie. Le Tibet a une centaine de kilomètres à 5 jours de marche. Ils cheminent le long du Mékong. On franchit le fleuve sur un pont de corde. Le 20 octobre 1923, on arrive à la mission catholique, aux portes du Tibet interdit. Alexandra racontera son voyage dans son livre « Voyage d'une Parisienne à Lhasa ». Elle prépare maintenant son départ pour Lhasa. Les bagages sont limités au strict nécessaire, il ne faut surtout pas attirer l'attention. Elle part bien sûr toujours avec Afur Yongden. Elle se munit de boussole. Elle ne sait pas si elle pourra suivre un itinéraire précis. Elle veut passer par une vallée mal connue, toujours en dehors des grands axes. Le circuit va être exécuté en hiver. Aucun occidental ne l'a fait avant elle. Elle n'emporte pas de carte anglaise qui serait compromettante au cas où elle serait fouillée. Elle a décidé de se présenter comme une pauvre Tibétaine accompagnée de son fils, un lama qui effectue un pèlerinage. Alors bien sûr, l'aventure est quand même périlleuse, hein, mais Alexandra a des atouts. D'abord une extrême résistance physique, une grande expérience des randonnées difficiles et sa détermination sans faille. Alors on part, un beau matin, de la fin du mois d'octobre 1923. Les provisions de nourriture sont prévues pour 2 à 3 semaines. Alexandra vit dans la crainte d'être aperçue et arrêtée. Elle et Yongden portent des vêtements chinois. Ils marchent la nuit, se cachent dans les taillis le jour, et ils se disent maintenant, il faudrait quand même mieux changer de vêtements. Donc ils mettent des vêtements tibétains. Et Alexandra se transforme en femme du peuple. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle teint ses cheveux avec un bâton d'encre de Chine. Elle se barbouille la peau avec un mélange de braise pulvérisée et de cacao. Cacao qu'elle avait emporté pour manger. Elle s'entoure la tête d'une vieille ceinture rouge et se met de grosses boucles d'oreilles comme en portent les Tibétaines. Ils arrivent à la traversée du col frontière. Rafale de vent, neige glacée. Ils glissent sur des éboulis. Ils descendent de l'autre côté dans une zone de forêt. Rencontrent même 2 léopards. Qui les regarde, et puis c'est tout. Les voici entrés au Tibet. Pas encore à Lhasa, hein, mais au Tibet quand même. Ils marchent depuis une semaine maintenant. Dans la journée, ils rencontrent d'autres Tibétains qui sont en pèlerinage. On dépasse un village sans problème, un col à 3290 mètres. On traverse une rivière. En traversant une forêt, Alexandra trouve un vieux bonnet en peau d'agneau, un bonnet tibétain, qu'elle s'empresse de mettre, bien sûr. Maintenant, la voilà qui mendie. Elle se glisse sans problème dans la peau d'une mendiante. Elle accepte la crasse, l'absence d'hygiène, pour parvenir à son but, Lhasa. Arrivée au village de Dayul, catastrophe. Il y a plusieurs pistes. Alors, afin de ne pas partir dans une mauvaise direction, Alexandra et Yongden se décident finalement à demander leur chemin. Arrivés à Porang, la partie la plus risquée du voyage commence maintenant. Il faut franchir une chaîne de montagnes, puis traverser une rivière. L'école, les cours d'eau se succèdent, il faut affronter le froid, l'indigence des abris et l'inhospitalité des rares habitants. Tous les deux gardent leur pistolet à portée de la main. Alexandra se ravitaille dans un monastère à 3000 mètres d'altitude. Elle continue à observer les coutumes des indigènes et se produit un incident. Ils se trouvent soudain entourés de voleurs qui leur dérobent 2 roupies. Alors, Alexandra se lance dans une série de lamentations, muée bientôt en imprécation. Elle en appelle à tous les lieux du panthéon lamaïste. Elle en fait suffisamment pour impressionner ces hommes superstitieux, si bien qu'ils rendent les 2 roupies et lui demandent même sa bénédiction. Pour rejoindre la grande route à Lhassa, il remonte la rivière de Jamda. Le chemin ne présente pas de difficulté. Un dernier col pour passer du bassin de la rivière de Jamda à celui de la rivière de Lhassa. Au passage du col, Alexandra et Afur découvrent un groupe de pèlerins. Certains sont blessés, d'autres sont morts, d'autres se cachent. Ils viennent d'être attaqués par des brigands. La dernière étape a lieu à 20 km à l'est de Lhassa. La piste longe la rivière, il faut la traverser. C'est la dernière épreuve du voyage. Le passage s'effectue en bac avec d'autres Tibétains qui n'accordent pas le moindre regard à ces 2 pèlerins très ordinaires. Enfin, ils sont à Lhassa. Plus question de, de laisser éclater sa joie, parce que évidemment, ça serait les faire découvrir. Elle a réussi quand même un exploit sans précédent. De plus, elle arrive pour les fêtes du Nouvel An. Elle a décidé de conserver l'anonymat afin de poursuivre son voyage à sa guise. En se faisant connaître, bien sûr, elle risquerait d'être arrêtée et reconduite à la frontière. Elle est émerveillée par la grande procession du Nouvel An. Des milliers de participants, des costumes, des musiques. Cependant, cette course énorme les a affaiblis. Ils sont tous les deux à bout de force. Et puis, ils ont attrapé l'influenza. La tension nerveuse est tombée. 2 mois après, Alexandra et Yongden sont toujours aussi faibles. Qu'est-ce qu'elle dit, Alexandra, de la ville de Lhassa? Eh bien, finalement, elle la trouve sans intérêt en dehors de l'animation. C'est par goût du défi qu'elle y est venue, plus que par curiosité véritable. Alors mieux, il se décide à visiter les monastères des environs. Vers le 9 ou 10 avril 1924, après 2 mois, Alexandra et Yongden quittent la ville. L'itinéraire de retour compte plus de 500 km. Alors elle achète 2 chevaux. Et lorsqu'elle quitte la ville, elle est loin de se douter que quelqu'un connaissait sa présence. Et quelqu'un qui n'a rien dit. C'est une personnalité très proche du Dalai Lama. Elle l'a connu 12 ans plus tôt. C'est l'ancien chef de police de Darjeeling, Ladon La. Sur le chemin du retour, la voyageuse visite le monastère de Samding au bord du lac Yamdrok. À partir de là, elle emprunte la grande piste qui conduit à Jhansi. Elle traverse des gorges sauvages. Ils arrivent à Jhansi dans la nuit du 5 mai 1924. Et c'est là qu'Alexandra va se faire connaître. Nous allons faire une autre pause musicale. Oh. Nous sommes toujours sur Radio Grand Ciel. Je vous raconte la vie d'Alexandra Davinel qui a quitté Lhasa et qui arrive à Jhansi. Alors elle décide de se faire connaître. Les Britanniques y sont présents. Il y a là un chargé d'affaires politiques et agent commercial, quelques officiers et une garnison de soldats hindous. Le premier Européen auquel la voyageuse s'adresse, c'est le directeur de l'école de garçons. Il s'appelle Monsieur Ludlow. Il est stupéfait d'entendre cette mendiante s'adresser à lui dans un anglais parfait. Alors, Alexandra dévoile son identité et révèle bien sûr son voyage. Monsieur Ludlow l'envoie alors chez le représentant politique, Monsieur MacDonald. On règle les formalités administratives parce que la situation, bien sûr, est illégale. Alors, on envoie des câbles au Foreign Office de Londres. La famille prête des vêtements, achète une nouvelle tenue tibétaine. Alexandra poste des lettres à Philippe et lui signale son besoin immédiat d'argent. David MacDonald lui prête alors de l'argent pour permettre de gagner le nord de l'Inde. On quitte Yansé le 17 mai. Il faut traverser l'Himalaya. Ça ne fait pas peur à Alexandra. Et pourtant, elle souffre du cœur. Et c'est ennuyeux parce qu'il circule à 4300 mètres d'altitude. Hein. Et puis, une violente tempête se déchaîne. À chaque étape, Alexandra et Yongden sont bien accueillis par les Anglais qui leur donnent des provisions. Le 11 juin, ils se présentent à la mission catholique de Pedong. Alexandra va tenter d'y reprendre des forces. C'est la fin des épreuves de la voyageuse. Ils y restent 3 mois. Elle ne songe pas à aller plus loin car elle n'a plus un sou. Elle n'a pas de nouvelles de son mari. Dans les lettres qu'elle lui écrit, elle lui demande d'organiser pour elle une véritable campagne de promotion. Il doit prendre contact avec des sociétés savantes, des personnalités influentes, des éditeurs. Et elle reçoit bientôt une invitation de la Société de géographie de Paris pour un article et une conférence. Le 10 juillet arrive une lettre de Philippe. La dernière remontait à 2 ans. Alexandra répond le jour même et annonce son retour dès qu'elle en aura les moyens. Le 31 août 1924, elle apprend qu'une subvention vient de lui être accordée par les autorités françaises en poste à Pékin. Mi-septembre, elle quitte donc Pedong, direction Calcutta. Elle y reste 3 mois. Dans sa lettre du 13 octobre, elle annonce son intention irrévocable de ramener Yongden avec elle et de le garder définitivement, parce qu'elle souhaite l'adopter officiellement. Philippe, lui, ne semble pas enchanté du tout. De Calcutta, Alexandra se rend à Bénarès. Elle y passe janvier 1925. Elle a des projets, 3 livres. 12 février, arrivée à Bombay chez le consul de France. Petit détour par Ceylan. Le 10 avril 1925, embarquement sur le Nil, escale à Valence. Le 10 mai 1925, Alexandra et Arthur Yongden débarquent au Havre. Elle est devenue une héroïne mondialement connue. Elle a 57 ans. Elle a quitté la France à la belle époque. 1925, c'est un nouvel art de vivre, un foisonnement artistique et culturel. Alexandra est une femme vieillissante dont le caractère indépendant et autoritaire s'est affirmé. En 1925, elle est l'orientaliste occidentale qui connaît le mieux le lamaïsme et les coutumes du peuple tibétain. Elle a réuni une documentation abondante et tout à fait inédite. Nous ne savons rien des retrouvailles des deux époux, si ce n'est que Philippe relève de maladie. Elle se trouve rapidement propulsée dans la vie trépidante, des célébrités. Elle donne des interviews, elle prononce des conférences, elle participe à des dîners. À chaque fois, Yongden est présent. Il récite des vers, en tibétain bien sûr, et entonne des chants. Lors de ses pérégrinations, pour ses conférences, elle arrive à Marseille. Elle rencontre son mari. Ils ont respectivement 58 et 64 ans. Eh bien, la conversation est tout à fait désagréable, parce qu'elle concerne Yongden et Philippe ne veut entendre parler de rien du tout. Eh bien, ils ne reprendront pas leur vie commune. Alexandra déniche une petite maison à Toulon. Son exploit lui vaut la Légion d'honneur, 2 prix de la Société de géographie de Paris et même un grand prix d'athlétisme féminin. Alors, on dit que c'est surprenant, mais c'est pas si surprenant que ça, avec tout ce qu'elle a parcouru et tout ce qu'elle a affronté. Hein. Elle se met au travail pour ses livres. Le voyage d'une Parisienne à Lhasa sort en novembre 1927. C'est un succès immédiat. Même chose pour les autres livres, Mystiques et magiciens du Tibet, Au pays des brigands gentilshommes, Le lama aux cinq sagesses. En 1928, elle achète une propriété à Digne, sur la route de Nice, de moyenne montagne en arrière-plan, et elle la nomme Santen Dzong, ça veut dire forteresse de la méditation. Elle aménage un oratoire tibétain. 1929, adoption officielle de Yongnen, Philippe a enfin donné son autorisation. Alexandra circule beaucoup, Italie, Suisse, Vosges, Belgique, Europe centrale, Afrique du Nord et l'Asie. Elle se rend à Pékin pour élargir le champ de ses connaissances sur l'ancien taoïsme. Hélas, c'est la guerre entre Chine et Japon. Les Japonais bombardent. Alexandra et Yongnen décident de partir. Les trains accessibles aux civils deviennent de plus en plus rares. Le départ a lieu quand même dans la bousculade. Le train est mitraillé par un avion. Arrivé à Ankeu, qui regorge de réfugiés, impossible de trouver une chambre. Enfin, à la Lutheran Mission Home, Alexandra est reconnue par le directeur qui lui octroie deux pièces claires et propres. Elle y reste 3 mois. Les Japonais approchent, alors Alexandra décide de fuir. Elle retient des places sur un bateau de vapeur, départ le 4 janvier 1938. Elle se retrouve à 2 pas du Tibet. Un séjour là-bas, sans doute le dernier, serait une consolation. Alexandra et Yongnen partent donc le 21 juin 1938 par la route des caravanes. Le 19 juillet, elle annonce à Philippe qu'elle va faire une retraite dans un ermitage, 2 petites chambres sommairement meublées. Mais les bombardements recommencent, et puis on lui demande de redonner cet ermitage qu'on lui avait prêté. Alors elle va sonner chez l'évêque catholique. Les religieuses mettent à sa disposition un ancien entrepôt à céréales. Alexandra apprend le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Les mois et les années passent, Philippe s'est retiré dans la maison familiale, dans le Gard, sa santé se dégrade, alors il écrit son testament. Et que met-il dedans? Eh bien qu'Alexandra aura droit au tiers de sa pension de retraite et il la désigne comme sa ligataire universelle. Le conflit sino-japonais s'éternise. Le 19 février 1941, Alexandra reçoit un télégramme. Philippe est décédé le 8 février, il avait 80 ans. En janvier 1945, le directeur de la compagnie des chemins de fer, tunisien, lui envoie les arriérés de la pension de Philippe. Alors les problèmes financiers sont réglés. Ils vont pouvoir rentrer à Calcutta en avion. Alexandra et Yongnen y restent jusqu'au 30 juin 1946. Puis retour à Paris, de là ils regagnent Digne. De 1947 à 1955, Alexandra publie 9 livres. 8 novembre 1955, un événement terrible pour elle. Son fils Yongnen meurt brutalement à l'âge de 56 ans. Elle en a 87 et elle se retrouve complètement seule. Alors elle cherche quelqu'un pour lui tenir compagnie et l'aider dans ses travaux. Une jeune femme de 29 ans se présente, elle pense que c'est pour quelques jours, elle s'appelle Marie-Madeleine Perronnet. Elle n'a jamais entendu parler d'Alexandra et elle découvre ahurie l'étrange villa Santen Dzong, forteresse de la méditation. Alexandra est bien tombée parce que Marie-Madeleine va rester malgré le caractère épouvantable de l'exploratrice. Cette dernière écrit son dernier livre à l'âge de 95 ans. À la fin du mois d'août 1969, Alexandra annonce qu'elle va mourir. Elle dit qu'elle le sent. Elle expire le 8 septembre 1969 dans sa 101e année. 4 ans plus tard, Marie-Madeleine procède à l'immersion des cendres d'Alexandra et celles de Yongnen dans les eaux du Gange à Bénarès. Au revoir à tous.